ferez gaffe, dans ce bâtiment, il y a des trous énormes un peu partout. Donc, tu vois, là-dessus, vaut mieux pas marcher, je pense. Sur les grilles, là, faut pas marcher là-dessus, je pense.
La voix de David de Rueda est paisible et calme, il ne faut surtout pas s'y fier. C'est le goût de l'aventure qui l'anime, celui de la prise de risque qui le fait marcher sur des parois instables, dans des tunnels sans fin ou encore qui le pousse à escalader des murs. Il est explorateur urbain. En résumé, il visite, et c'est même devenu son métier, il visite des lieux construits par l'homme, aujourd'hui abandonnés. L'exploration urbaine, appelée Urbex, le conduit dans des sites industriels, des châteaux, des hôpitaux désaffectés, des anciennes installations militaires. Ces infiltrations sont illégales, mais elles répondent à des règles, ne pas dégrader, ne rien rapporter, mis à part des photos. Et même aujourd'hui des vidéos de plus en plus sophistiquées proposées sur des dizaines et des dizaines de sites. L'urbex se démocratise et arrive à extirper certains lieux de l'oubli.
Tout seul, on ne peut pas sauver une usine. Il faut vraiment qu'autour, il y ait une prise de conscience de la qualité architecturale. Et les urbex participent de cette mise en valeur en fait, des bâtiments industriels.
L'urbex conduit ses adeptes là où ils ne devraient pas mettre les pieds, braver l'interdit et la norme. C'est une pratique dangereuse également. Les lieux abandonnés visités sont le plus souvent des propriétés privées en très mauvais état. Les accidents se multiplient ces dernières années.
Ils sont rentrés dans cette friche, ils ont tenté certains défis et puis ça a mal fini, quoi. Il y aura d'autres accidents, c'est sûr et certain, quoi.
Pour commencer ce reportage, nous allons explorer une ancienne centrale nucléaire. Elle est située au Pays Basque espagnol. Il ne faut avoir peur ni du vide, ni du gendarme. Ne pas avoir peur tout court, en réalité, pour suivre la fine fleur de l'urbex, ces aventuriers des sites abandonnés. C'est un reportage d'Antoine Gignot avec Hélène Langlois qui signe une prise de son aussi sportive que remarquable.
Interception. Le magazine de reportage de la rédaction.
Il est minuit, 5 minutes, et on arrive sur le parking d'un grand magasin. Et on va se garer à côté d'un petit van gris. C'est là que nous attend David de Rueda. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Énormément de vent.
C'est vrai, ça souffle pas mal là.
Alors on est à 40 minutes de Bilbao à peu près et à 10 minutes de la centrale nucléaire désaffectée où on va essayer de rentrer ce soir. Est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter ?
Alors je m'appelle David de Rueda, je suis explorateur urbain et photographe depuis une petite dizaine d'années maintenant.
Robin Jarvaux, donc photographe amateur et puis je suis David Derrida dans ses pérégrinations d'explorateur urbain.
L'objectif, c'est la centrale, une centrale où quasiment personne n'est entré depuis 30 ans.
C'est ça, c'est une centrale nucléaire qui n'a jamais été terminée en fait. Et depuis 30 ans, elle est à l'abandon. C'est un site énorme, labyrinthique, très impressionnant. Ouais.
Qu'est-ce qu'on met en place maintenant ? Qu'est-ce qu'on prépare ?
Là, déjà, on a notre matériel photo. Ensuite, on a du matériel type cordes, grappins pour accéder au lieu. Puis des vivres aussi pour tenir sur place. De l'eau, sac de couchage, matelas gonflables. Tout l'équipement pour bivouaquer sereinement, on va dire.
C'est un lieu qui n'est accessible que la nuit.
Ouais. En fait, c'est un lieu depuis 30 ans qui reste gardienné H24, avec un gardien qui fait même des rondes la nuit avec son véhicule. Donc, de jour, c'est impossible sans se faire attraper, je pense. Donc, oui, obligatoirement de nuit, il n'y a pas le choix. Ouais.
On va rentrer comment ?
On va rentrer, on va franchir des grillages, des barbelés. C'est un site qui est très encaissé dans une petite vallée. Donc, on va descendre plusieurs dizaines de mètres avant d'accéder à des murs assez hauts. Et on va essayer de trouver une faille. Sur ce site, c'est un site qui est difficile d'accès, donc l'accès n'est pas encore garanti ce soir.
Allez, on y va ?
C'est parti.
vois rien, donc je sais plus où est le chemin. On est entouré de... C'est plein de ronces, en plus. De ronces. C'est pas très facile de progresser. Cette centrale, elle est unique en son genre. Quasiment terminée, mais jamais mise en service. En 1981, alors que la construction s'achève, les séparatistes basques de l'ETA, qui ont déjà posé des bombes sur le site, enlèvent et assassinent l'ingénieur en chef chargé des travaux. Le chantier s'arrête.
Comment les ravisseurs ont-ils pu mettre leur menace à exécution alors que les conditions qu'ils réclamaient étaient impossibles? La démolition de la centrale nucléaire en cours de construction à Limousine, dont M. Ryan était donc l'ingénieur en chef, était évidemment exclue.
3 ans plus tard, le Parti socialiste espagnol annonce un moratoire sur le nucléaire et tout reste tel quel. Depuis, même si les équipements ont en partie été démantelés, il reste ces 1000 tonnes de ferraille, ces 200 000 mètres cubes de béton armé dressés sur le bord de mer.
Ça va, nos yeux ils commencent à s'habituer à l'obscurité, donc je pense qu'on n'aura pas forcément besoin d'allumer des lampes.
Mais là on voit bien, on aperçoit la centrale qui est en train de se dessiner en bas, le dôme, le mur d'enceinte et probablement la mer derrière.
Le site est vraiment collé à l'océan. Ouais, c'est, à la base c'est un beau site naturel ici. Hein. Ils ont construit ça en plein milieu.
Ce qu'on aperçoit en bas à 250 mètres, c'est la voiture du gardien.
C'est la voiture du gardien, exactement. D'après nos observations des dernières fois, c'est 2 gardiens et un chien.
Donc il y a en permanence 2 gardiens.
24 heures sur 24.
Et il va falloir qu'on rentre quand même.
C'est ça. En fait, tout autour de la centrale, c'est à découvert, en fait. Donc si le gardien est dans les parages, c'est un peu compliqué. C'est pour ça qu'on doit vraiment observer sa ronde et attendre qu'il soit parti.
En plus, le vent souffle fort.
Ouais.
On entend les pylônes. C'est un pylône électrique au-dessus de nous qui vibre à cause du vent. Des rafales à 80 km/h quand même.
Il est autour d'1h30 du matin. La météo est de plus en plus mauvaise. On avait déjà le vent, voilà, la pluie qui arrive. Mais paradoxalement, c'est une bonne nouvelle parce que les rafales, les bourrasques, les crépitements de l'orage vont masquer le bruit de nos pas. Et la pluie va aussi probablement dissuader les gardiens de sortir de leur voiture.
Le gardien vient de finir sa ronde, ce qui est bien. Donc on va pouvoir entamer la descente vers la centrale. Normalement, là, dans une demi-heure, on sera au pied du mur et puis on pourra rentrer dans la centrale, si tout va bien.
Il y a un dénivelé ?
Il y a à peu près 80 mètres en hauteur de descente, quoi. Et ça descend bien à pic.
Bon, faut pas... conseil pour les gens comme moi ?
Bah, s'accrocher à ce qu'on peut et surtout suivre les indications qu'on va vous donner et puis ça va bien se passer.
Allez, on y va.
Ça redescend pareil.
Oui.
Donc
faut pas basculer.
Ouais.
que oui.
On descend les derniers sacs. On a fait le plus gros.
Ah là, on a fait le plus gros, ouais. Clairement.
Et il est pas loin de 6h du matin.
Il est même 6h passé, je crois, ouais. On a mis plus de 6h pour rentrer, finalement. Mais bon, on a dû patienter, en fait. Le gardien bougeait pas. Finalement, il est parti. Et voilà, on est à l'intérieur.
Ça s'est joué à rien. On aurait pu rebrousser chemin.
On était presque à deux doigts de rebrousser chemin, clairement, ouais.
C'est souvent ça pendant les exploits, en fait. Il y a un moment et il faut pas le rater.
Ben voilà, faut tenter le coup jusqu'au bout, en fait.
L'attente fait partie de l'exploration, en fait, la plupart du temps.
Allons-y.
Bon, ferez gaffe, dans ce bâtiment, il y a des trous énormes un peu partout, donc... Tu vois, là-dessus, vaut mieux pas marcher, je pense.
On entend les plaques de tôle qui bougent avec le vent et on marche... sur des poutres en béton qui tiennent des grilles métalliques rouillées. Faut faire des grands pas. Et on aperçoit de l'eau au fond.
Il faut bien éclairer au sol avec les lampes. Hein.
Voilà l'escalier. On est dans un décor... C'est même plus une ruine là, oui.
C'est post-apocalyptique, non? Donc voilà, c'est par là qu'on va passer.
Allez. Je suis en équilibre sur un bloc de béton. Et ça bouge un peu sous mes pieds. Donc il faut attraper la poutre. Elle est un peu haute cette poutre. Il y a des ronces qui pendent au milieu.
Ah, c'est pas trop longtemps là quand même. Il y a des ronces, hein. Ah, fais gaffe.
Il y a quand même un peu un jeu de cache-cache quoi qu'il arrive. On est dans une centrale là qui est gardée jour et nuit avec une voiture qui patrouille autour, avec un chien, avec deux gardiens. On a l'impression que vous prenez quand même un peu de plaisir à vous dire je suis rentré quand même et les rondes continuent à l'extérieur et nous on est dedans.
C'est vrai que ça serait moins drôle si toutes les portes étaient grandes ouvertes et qu'on pourrait rentrer par la grande porte quoi. Mais non, c'est vrai qu'il y a un petit aspect grisant quand même, tout ce parcours pour accéder à l'intérieur. Ça fait partie du jeu quoi.
Techniquement, qu'est-ce qu'on risque? Et puis est-ce que vous avez déjà eu cette difficulté-là d'interpellation, de poursuite éventuelle?
Alors, ce qu'on risque surtout, c'est de se blesser. Comme vous avez pu le voir, on traverse beaucoup de choses avant d'arriver là où on le souhaite, quoi. Donc, si on n'est pas attentif, on peut vraiment se faire mal. Le danger dans ces endroits-là, il est partout, même quand on s'en doute pas. On peut très facilement traverser un plancher et ça prévient pas, quoi. Donc, faut vraiment être très vigilant.
En dessous de nous, il y a 20-25 mètres de vide, quasiment.
Ouais, à peu près. Et sur une hauteur comme ça, la chute, elle est fatale, quoi. Donc, faut pas prendre ça à la légère.
En termes de risque juridique, en rentrant dans une propriété privée, même si elle est abandonnée, qu'est-ce qu'on risque?
C'est très variable. Enfin, tout dépend du propriétaire. Si c'est un site plus sensible qu'un autre, forcément, les conséquences seront différentes. Bon, j'ai jamais fini au poste. Peut-être été qu'on reconduit à la sortie deux ou trois fois, mais pas plus. Ça n'a jamais été très sérieux, quoi. Il n'y a jamais eu d'amende. Quand on prend en sérieux cet aspect d'infiltration, si on peut appeler ça comme ça, et de discrétion, normalement, ça se passe bien. On garde ses vraies photos, on les cache. Et avec une autre carte, on prend des photos comme ça, un peu à la volée. On les laisse dans l'appareil pour faire croire qu'on a les bonnes photos dans l'appareil, alors que les bonnes photos sont cachées ailleurs, quoi.
Parce qu'il y a un risque qu'on vous demande de les effacer.
C'est vrai que si on se fait attraper, il y a de grandes chances qu'on nous demande ça.
On est sur le toit.
Je n'ai plus mon casque.
Il est où?
J'ai marché dessus pendant la montée. Ah, sur tous les câbles, il a fallu que je redescende. Donc là, il se prend chaud.
Ça tourne toujours. On a une voûte étoilée magnifique au-dessus de la tête. Et quoi? Un réacteur à côté de nous? Un ancien... Un champ de ruines en dessous, oui. C'est quoi? C'est le décor? C'est la performance physique d'être arrivé jusqu'ici? C'est quoi qui vous pousse à venir et à continuer de venir?
Bah, c'est sympa quand même d'accomplir ce genre de mission, c'est sûr. Non, au-delà de la performance, c'est l'aventure. Ben voilà, c'est un endroit un peu unique quand même.
À un moment un peu unique aussi, parce qu'on se retrouve... là, il est quoi, bientôt 7h du matin, le soleil s'est pas encore levé, personne ne sait qu'on est là. Il y a un côté assez particulier à se trouver là, on est un peu hors de la vie réelle.
Ouais, je dis souvent que quand on explore comme ça, on se sent un peu dans un monde parallèle en fait.
On a même les hiboux, tu l'as, je sais pas si tu l'as entendu là, ici, complètement.
Bon allez, dernier passage et on est bon.
Robin Gervaux, ancien ingénieur génie civil et photographe amateur.
On est à l'intérieur d'une centrale qui date des années 70, puisque c'est le gouvernement de Franco qui a lancé le projet à l'époque. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui? Quelle trace est intéressante de cette époque-là?
Toutes les parties métalliques ont disparu, beaucoup d'équipements ont disparu. Il reste vraiment la superstructure actuellement. Historiquement, les centrales nucléaires, elles n'ont pas beaucoup évolué, et du coup, on retrouve vraiment ce qui se fait encore maintenant. Hein. C'est à peu près toujours la même technologie. Une centrale nucléaire, c'est une grosse cocotte minute avec plusieurs circuits qui passent les uns à côté des autres. Donc, c'est assez basique dans le principe, mais du coup, les bâtiments sont organisés à peu près de la même manière. Avec la mer à proximité, en tout cas une source d'eau, parfois c'est des rivières.
Quel regard vous avez là-dessus, vous qui avez travaillé sur le chantier d'une centrale nucléaire plus récente, d'être à l'intérieur de ce bâtiment-là, vous le vivez comment?
Les bâtiments, en fait, se dégradent, et du coup, on voit des choses qui se construisent, des choses qui vivent, et des choses qui disparaissent. Maintenant, il y a plein d'eau dedans, les toits s'effondrent, etc. Et c'est triste, et en même temps, c'est une marque que l'être humain, on est là, mais ça reste qu'un passage, quoi.
Quand on voit la hauteur du dôme qui est au-dessus de notre tête, on a l'impression vraiment d'un édifice qui est presque plus à taille humaine.
Ah, c'est sûr que s'il y a des structures pareilles dans le génie civil, quand on voit des ponts, vraiment des grandes structures comme une centrale nucléaire, quand on voit David prendre ses photos au pied d'une structure ou tout en haut sur un ponton, voilà, on se rend compte que on est vraiment minuscule à côté de ce qu'on construit sur ces structures-là.
Qu'est-ce que tu fais? C'est toi?
Juste on ouvre la porte.
T'as dit un malade? Allez, viens.
Les réacteurs, là, tu es là.
On est à l'intérieur du dôme, en plein milieu de ce qui a été le réacteur de la centrale nucléaire. Et du coup, on est en haut des piscines. Et il y a une partie des piscines, en fait, qui est assez longue, dans laquelle les barres sont stockées verticalement. Du coup, elles peuvent être amenées depuis cet endroit jusqu'au-dessus du réacteur.
Les barres d'uranium.
Et descendues dans le réacteur qui est le gros creux qu'on a sous nous. Là.
Donc là, on a une trentaine de mètres en dessous de nous. Tout ça, normalement, c'est rempli d'eau.
Actuellement, c'est rempli d'eau, en fait, si on regarde là. Mais ouais. C'est de l'eau de pluie qui a dû s'écouler jusque-là.
Dans la lumière rouge de nos lampes, on voit apparaître l'entrée du réacteur nucléaire. Le dôme avec les cuves d'eau en dessous et la plateforme pour acheminer l'uranium. Uranium qui n'est jamais arrivé jusqu'ici puisque la centrale n'a pas été mise en service. Il n'y a aucune radioactivité. On peut donc avancer jusqu'au cœur du réacteur.
un des lieux les plus visuels. Là, on est dans le noir total. Donc, va falloir créer soi-même toute la lumière avec différents spots en pose longue. C'est un peu de la science-fiction, ce genre d'endroit. Donc là, je vais utiliser des éclairages rouges, bleus pour voilà, faire ressortir ce sas. C'est le genre de structure qui me fait penser un peu à un sous-marin aussi. C'est peut-être pour ça que j'ai mis une lumière rouge. Mais en fait, la lumière rouge, je trouve qu'elle colle très bien avec les tons froids. Et ce contraste, j'aime beaucoup, rouge, un peu bleuté, ça rend bien, surtout avec ces détails métalliques au premier plan. Puis voilà, le rouge au milieu attire l'œil, et vraiment on est plongé dans la scène, et on a même envie de voir ce qui se passe au fond de cette pièce, quoi. Ça questionne. Ça ramène aussi à l'enfance, souvent, parce que quand on est petit, on explore souvent des maisons abandonnées dans le quartier, ce genre de choses. Presque tout le monde a fait ça dans son enfance. Ça peut ramener des souvenirs aussi.
Vous êtes allé aux quatre coins de la planète, photographier les navettes spatiales abandonnées à Baïkonour, photographier des lieux abandonnés aux États-Unis, photographier des sites auxquels peu de gens ont eu accès. Quand est-ce que vous vous êtes dit ça peut devenir mon métier, mon occupation à plein temps?
Ça n'a jamais été un objectif en soi. En fait, le premier gros projet, ça a été ce voyage aux États-Unis. 3 mois sur la route de New York à San Francisco, à visiter des dizaines de lieux abandonnés, et pas que abandonnés d'ailleurs, dans les grandes villes comme New York, on est allé sur les ponts, sur les toits. Voilà, c'était un peu, on va dire, le point de départ de ma carrière d'explorateur, si on peut appeler ça comme ça, parce qu'après un projet, on amène un autre, et ça s'est jamais arrêté depuis, j'espère que ça continuera.
Cette exploration permet aussi de mettre des images sur la facture payée depuis bientôt 50 ans par l'État espagnol. Entre les pénalités versées à la compagnie d'électricité et le manque à gagner de cette centrale inutilisée, les deux réacteurs de Lemonis ont coûté jusqu'ici près de 6 milliards d'euros.
Là, on est en train de passer dans un dédale de couloirs et de galeries avec des vannes et des tuyaux un peu partout. C'est l'écho. Incroyable. Tu peux faire les sacrés sons ici.
Incroyable.
Interception. Le magazine de reportage de la rédaction.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration nocturne. Je me trouve actuellement dans la ville fantôme de Pripyat, à quelques kilomètres de la centrale nucléaire de Tchernobyl.
L'urbex est né dans les années 80, porté par un explorateur américain. Longtemps, le mouvement est resté confidentiel, mais aujourd'hui, il se démocratise avec les réseaux sociaux. Ils permettent de visiter une friche industrielle à l'autre bout du monde ou encore d'aller dans le moindre des recoins de Tchernobyl, tout en restant dans son canapé. Nous retrouvons Antoine Gignot à Metz, dans les locaux de Mamie Twink.
Bonjour.
C'est une chaîne YouTube dédiée à l'histoire et à l'exploration urbaine.
Nous, on fait tous nos enregistrements plateaux et tous les montages.
Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît?
Alors, on est Julien et Florian de la chaîne YouTube Mamie Twink.
Une vidéo qui marche vraiment bien, c'est plus d'un million?
Alors, une vidéo, ça va être entre 500 000 et jusqu'à 4 millions de vues. On se présente vraiment comme des passionnés et sur YouTube ou même sur les réseaux sociaux en général, on interagit avec les spectateurs comme si c'était des amis. D'ailleurs, on les appelle les amis. On ne reprend pas forcément des codes de médias traditionnels où on va devoir respecter peut-être un certain langage, une certaine durée, on fait vraiment ce qu'on veut. On a une ligne éditoriale. Dans le choix des lieux qu'on va visiter, on va choisir des lieux qui ne se ressemblent pas. On va par exemple pas faire 10 fois un château abandonné. On va choisir des lieux qui ont une histoire à raconter. Il y a chaque jour des centaines de milliers de vidéos qui sont proposées aux spectateurs et il faut sortir du lot, donc avoir un titre et une vignette qui sont aguicheurs sans pour autant tromper le spectateur.
Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue dans ce hors-série. Je vous avoue que là je suis pas super à l'aise. Faut savoir que j'en ai déjà visité quelques-uns, des forts de guerre dans la région, mais à chaque fois c'était avec au moins un autre ami, une autre personne. Là, c'est la première fois que je le fais tout seul.
Les utilisateurs de YouTube aiment bien un petit peu se faire peur, hein, bien le spectacle, tout le monde aime bien se faire peur. Et une des vidéos qui a eu le plus de succès, c'était une vidéo qui s'intitule « La plus grande peur de ma vie ».
Donc, je pense que je vais bien flipper, mais vous allez voir. Vous avez entendu ça?
Et en fait, toute la tension s'était construite parce que Florian explorait le lieu déjà depuis plusieurs heures. Donc, tout seul, dans le noir, en pleine nuit, c'est un fort qui est noyé dans la forêt, dans la nature, donc c'est déjà très très angoissant. Et à la fin, se fait avoir par François qui lui avait tendu une petite blague et il est tombé sur ce faux cadavre. Il a eu vraiment très très peur. Ça a beaucoup marqué la communauté. Mais l'objectif reste quand même de raconter l'histoire.
Pour rebondir juste sur le frisson qui était très omniprésent au début, qui est maintenant un peu plus en retrait parce qu'on essaie quand même de faire des choses sérieuses quand même. Quand on est parti à Tchernobyl l'année dernière pour faire notre documentaire sur les zones radioactives de Tchernobyl, on y allait avec un guide privé qui connaît les lieux comme sa poche parce que ça fait plus de 10 ans qu'il explore les moindres recoins et il connaît des endroits qui sont très très peu visités et donc des lieux qu'on peut uniquement explorer en combinaison intégrale avec les masques à gaz, en prenant vraiment très soin de faire attention où on met les pieds et à ce qu'on touche. On a pu aussi à Tchernobyl voir un réacteur qui était en cours de construction au moment de la catastrophe, qui n'a jamais été terminé. On a pu aller à l'intérieur. La radioactivité, il y a un certain danger qui est assez... ça peut faire peur. Mais voilà, ce petit frisson qu'on retrouve, qu'on essaye de disséminer un petit peu dans nos créations.
En termes de structure, vous êtes quoi aujourd'hui? Là, on est à l'intérieur d'une sorte de grande zone où il y a plusieurs start-up, où il y a plusieurs médias aussi, et où vous êtes installé. Mais techniquement, vous fonctionnez comment?
On a une entreprise qu'on a fondée il y a plus de 4 ans. On est 4 salariés aujourd'hui et on travaille avec 3 collaborateurs externes en freelance. Pour le modèle économique sur Internet, c'est assez simple. Sur YouTube, on a 2 sources de revenus principales. Les publicités qui sont diffusées avant, pendant et après une vidéo. Et on a aussi la possibilité de nouer des partenariats et du sponsoring en direct avec des marques. C'est vrai qu'il y a, notamment auprès des jeunes, beaucoup de fantasmes sur la vie d'un YouTuber qui va gagner sa vie en faisant ses vidéos. Au final, la réalité est assez, entre guillemets, banale, on va dire, dans le sens où, faut monter une société, faut avoir un business plan, un business model, des comptables. Donc finalement, c'est assez classique comme fonctionnement d'entreprise.
Budget annuel,
c'est plus de 200 000 euros pour faire tourner tout ça, pour assurer nos productions. Mais après, c'est aussi ça, disons un peu la magie d'Internet, c'est qu'on démarre à zéro, on crée tout soi-même, avec des bouts de ficelle par-ci par-là, on bricole et puis ça monte et puis aujourd'hui, on a en tout cas la chance de pouvoir vivre de notre passion.
Dans la plupart des cas, les anciennes usines, les anciens entrepôts sont très peu sécurisés. À la sortie d'Angoulême, il suffit de pousser un grillage pour pénétrer à l'intérieur des Chais Montaigne, une gigantesque friche industrielle, plusieurs milliers de mètres carrés. C'est ici qu'un adolescent s'est tué en 2015 en tombant du haut du toit.
C'est Malvina Pérebès, la maman de Logan, qui est décédée sur cette friche le 20 juin 2015. Ce jour-là, mon fils était censé aller à la piscine. Donc il est parti à vélo avec 2 amis. Et moi je reçois cet appel du commissariat d'Angoulême m'expliquant que mon fils avait eu un accident.
Et donc j'ai eu quelqu'un du SAMU qui m'a annoncé que mon fils était décédé à 15h45. Il allait avoir 14 ans.
Vous saviez qu'il venait régulièrement ou pas du tout ?
Pas du tout. Ce site, moi, je ne le connaissais pas. Je l'ai connu quand il était en activité, donc ça remonte dans les années 2000. Mais je ne savais pas que ce site était à l'abandon. Je ne connaissais pas du tout. À l'intérieur, en fait, c'est dans un état pitoyable. Vous avez différents paliers. Et quand vous êtes en hauteur, c'est un exemple. Il y a marqué « saute si tu as des couilles ». Enfin, voilà. Je pense qu'ils sont rentrés dans cette friche. Ils ont vu que c'était un lieu de défi. Voilà, ils ont tenté certains défis et puis ça a mal fini, quoi.
C'était sur le grand bâtiment qu'on voit derrière ?
C'est sur ce bâtiment-là, ouais. C'est sur ce bâtiment-là. Il n'était pas tout seul, il était avec d'autres jeunes. Donc il y avait une personne du même âge que mon fils et une personne qui était majeure. Et ils m'ont expliqué qu'en fait, ils s'étaient mis où il y a une petite ouverture qui donne à l'extérieur au niveau des toits, qu'ils voulaient prendre une photo. Parce qu'ils avaient toute la vue sur Angoulême. Je vous fais juste constater, en aucun cas, vous avez marqué quelque chose, comme quoi c'est une propriété privée.
Il n'y a aucun signe, aucun panneau.
Non, il n'y a aucun signe, aucun panneau. Je sais que ce n'est pas la première fois qu'il y a eu un accident, c'est le premier accident mortel qu'il y a eu. Vu l'ampleur du site, c'est un peu compliqué pour que ce soit sécurisé. Il faut que ce site soit rasé. Il y a le grillage, vous avez juste à soulever, vous passez.
On le voit à côté de nous, le grillage, il est tordu en bas.
Vous avez juste à soulever, vous passez, et là vous avez un accès un peu plus haut, c'est pareil.
Ça veut dire que depuis 2015, et depuis l'accident, on a toujours des jeunes qui viennent ici.
Exactement. Rien n'a été fait depuis 2015. Rien.
Aujourd'hui, vous avez lancé une procédure pour homicide involontaire.
Alors c'est long, parce que ça fait 5 ans, ça se fait pas comme ça. Là, on a réussi à ce que les deux propriétaires du site donc soient mis en examen. Maintenant, je ne suis pas là à chercher un responsable. Ce n'est pas ça du tout. Je ne dis pas « c'est vous qui avez tué mon fils ». Non, non. C'est juste pour éviter que ça arrive à d'autres personnes. C'est tout. Il y aura d'autres accidents. C'est sûr. C'est sûr et certain, quoi.
Un mot sur le phénomène de mode, puisque c'est ce qui nous a amené ici. Il y a des dizaines, voire des centaines de comptes maintenant sur Instagram et sur YouTube qui reprennent des images un peu chocs, des endroits abandonnés, des friches comme celle-là. Comment est-ce que vous vivez ce phénomène-là ?
Moi, j'ai du mal, en fait, par rapport à ça. C'est là, par exemple, sur ce site-là, il y a à peu près 2 ans, je vois un article en ligne sur donc la Charente Libre, le journal local de la Charente. Et là, je vois donc un jeune rappeur qui débute et qui fait son clip donc sur la friche. Donc, moi, mon réflexe, ça a été d'appeler la Charente Libre et de demander à ce que l'article soit enlevé en ligne. Donc, ils l'ont fait. Hein. Après, il n'y a pas qu'à cet endroit-là. Quand on regarde, que ce soit à la télé ou n'importe, tout se fait de toute façon sur les sites abandonnés, sur les friches abandonnées. Maintenant, quoi faire ? Je n'ai pas de solution miracle. À part prendre des arrêtés de péril, déjà, ce serait bien.
Ça, c'est à la mairie de le faire, c'est aux collectivités ?
Oui, à la préfecture. Préfecture, mairie, donc... Mais j'irai jusqu'au bout. Ça fait 5 ans, ça me prend du temps, ça me prend de l'énergie. J'irai jusqu'au bout.
Bonjour. Merci beaucoup de prendre un peu le temps.
Vous êtes les bienvenus.
Xavier Bonnefond, maire d'Angoulême.
Les chais Montaigne ont été, dans les années 2000, à partir de 2004, fermés. Cette friche, aujourd'hui, reste accessible. Est-ce que vous avez une trace de qui y rentre et quand ? Et est-ce que vous avez la possibilité de le contrôler ?
Comme vous l'avez souligné, c'est un ensemble privé. Nous n'avons pas vocation à pouvoir envoyer nos forces de police municipale, par exemple, sur une emprise privée. Pour autant, je demande aux forces de police municipale de faire des rondes régulières, parce que ce qu'on constate, c'est évidemment des accès quand même de jeunes ados qui, par curiosité, veulent découvrir ces friches industrielles.
Les réseaux sociaux ont beaucoup accélérer ce type de comportement de jeunes qui vont sur des sites fermés, sur d'anciennes friches industrielles. Est-ce que vous l'observez dans la ville d'Angoulême? Et puis, est-ce que ça représente un véritable danger pour vous?
Alors, nous l'observons évidemment comme beaucoup d'autres territoires, j'imagine, en France. Mais on voit bien aussi qu'il y a une course à l'échalote, hein, et c'est celui qui va faire parler de lui le plus sur la toile et qui aura le plus de vues en quelques jours à l'issue de quelque chose qu'il jugera comme un exploit. Souvent un exploit qui, finalement, un jour, se traduira par un accident. On a de plus en plus cela, et c'est vrai que la question des friches et la question du fait de visiter ces friches, et puis de se filmer certainement en faisant des actions des gestes un petit peu surprenants, crée certainement, j'imagine aussi chez eux, une sorte d'adrénaline. Il faut le regretter, c'est là où finalement... dans notre système éducatif français, la culture des réseaux sociaux doit être, à mon sens, intégrée dans l'éducation de nos jeunes enfants.
Comment est-ce qu'en tant que municipalité, on se saisit d'un dossier pareil ?
On se saisit d'abord d'un dossier comme celui-là parce qu'on a une volonté politique. Sans volonté politique, évidemment, on n'ouvre pas le dossier et on se contente de dire que il n'y a pas de réelle solution pour nous, surtout pour une ville comme Angoulême, qui est certes une ville-préfecture, mais qui est une ville qui a souffert il y a quelques années quand même de difficultés financières et qui en a encore quelques traces. Envisager des procédures juridiques lourdes et coûteuses pour un site comme celui-ci, de taille assez immense, qui donc pourrait avoir une évaluation quand même de quelques millions d'euros, on se dit, on n'a pas les reins solides et on ne dispose pas comme ça des outils juridiques. Pour autant, nous avons découvert, on va dire, la possibilité d'abord de saisir une procédure qui s'appelle la déclaration d'utilité publique au titre de la réserve foncière et puis d'utiliser un outil qui existe sur la région Nouvelle-Aquitaine, qui est l'EPF Nouvelle-Aquitaine, qui fait du portage foncier pour pouvoir obtenir l'expropriation à terme. On s'inscrit dans une démarche longue, on le sait, hein, quand on ouvre ce genre de dossier. On mesure en effet le risque aussi qu'il y ait des procédures d'appel ou des recours du propriétaire.
Un projet comme la destruction, l'expropriation, destruction, réhabilitation des chez Montaigne, ça se chiffre en millions d'euros? Vous avez une estimation?
On peut raisonnablement demain être sur quelque chose entre 5 à 10 millions sur un site d'une telle grandeur.
L'addition est d'autant plus lourde que le site des chez Montaigne n'est pas le seul abandonné de la ville. La mairie mène de front plusieurs projets de réhabilitation. Les friches sont proches des habitations et tous les jeunes les connaissent. C'est par hasard que nous évoquons le sujet avec Fauzi, dessinateur installé à Angoulême. Et immédiatement, il nous raconte comment il est allé chercher son fils au poste de police.
J'étais chez moi tranquillement en train de faire la sieste. Coup de fil, commissariat de police, venez chercher votre fils. Le DF qui était en train de se faire démolir, pendant des années, c'était vraiment le lieu de pratique de l'urbex, quoi. Il a poussé une baie vitrée avec un copain, donc ils sont rentrés. Et puis un voisin a vu ça, il a appelé les flics, ils les ont surpris. Alors les flics, ils managent pas les gosses, hein. Ils les ont braqués et tout. Donc ils ont eu peur, mes deux ados, ils ont eu peur. Et finalement, ils ont vu que c'était des enfants innocents, mais qui auraient pu vraiment se faire très mal. Donc ils les ont ramenés au commissariat, je suis venu les chercher. Entre eux, ils utilisent ces mots explorer, parce qu'ils voient ça sur leur Instagram, sur leurs ordinateurs. Mais bon, j'ai compris que animé par la curiosité, c'est une petite aventure. C'est comme nous, à mon époque des années 60, c'était les terrains vagues. Les terrains vagues, il n'y en a plus. Chez nous, c'était les terrains vagues, les palissades cassées. C'était des petits lieux comme ça où on allait se rencontrer tout seul ou même écouter de la musique. Mais c'était pas des friches industrielles, c'était pas des choses avec de l'électricité, des cuves, des trucs.
Est-ce que c'est vraiment un phénomène générationnel pour vous? Est-ce que c'est la multiplication d'Instagram, de YouTube, des plateformes?
Ça met de la lumière dessus. Mais quand il n'y avait pas Instagram, ça se faisait toujours, mais on ne le savait pas. Maintenant, les gens ont une espèce de voyeurisme et d'exhibitionnisme de montrer ce qu'on fait. C'est un peu leur monde parallèle. Ça flirte un peu avec le monde de l'interdit et du danger. C'est un peu le monde, ils sortent de la société, ils sortent du monde des adultes, donc des lois, des valeurs, un petit peu du bon sens. Donc voilà, l'urbex, pour moi, c'est bien d'explorer. C'est comme les explorateurs du 19e, mais ils ont fait de l'urbex. Ils sont partis en Amazonie, ils sont partis du côté de l'Alaska. Et ben voilà, l'urbex d'aujourd'hui, il est industriel, il est fait de, déjà d'une forme de passé, parce que le XXe siècle, c'est déjà du passé. Il est déjà rouillé, vieux, plein de mousse, complètement cassé. Là où il y a un entrepôt, une usine, quelque chose de désaffecté, il y a de l'urbex. Il y a la rouille, il y a l'eau, il y a la mousse, il y a tout un décor.
C'est parfois ce décor, ces murs décrépits et ces vitres brisées, photographiées, filmées, qui permettent de sauver et de faire revivre d'anciens bâtiments.
Elle ressemble à un hangar, une halle ou un marché couvert, mais c'est une gare, une très vieille gare même. Au départ, ce bâtiment était le pavillon russe à l'exposition universelle de 1878. Ensuite, le destin en a fait une gare au Champ de Mars pour l'exposition universelle de 1889 cette fois. Et puis, au début du siècle, le bâtiment déménage à Asnières, qui doit remplacer ses installations dévastées par un cyclone. En 1937, elle arrête sa carrière de gare et devient tour à tour entrepôt, dépôt Cernam ou salle de judo.
Voilà, l'idée, ce serait plutôt d'aller là et puis de voir le bâtiment de ce point de vue-là.
D'accord. À Asnières-sur-Seine, en banlieue parisienne, la gare Liche, abandonnée depuis le milieu des années 80, s'apprête à retrouver des couleurs alors qu'elle était promise à la démolition ou au démantèlement.
On est encore sur une emprise de la SNCF ici.
Ah oui, d'accord.
Et le bâtiment, il a été inscrit au titre des monuments historiques en 1985, mais depuis, il est laissé complètement à l'abandon. Ben, vous voyez tout ce qui est toiture, les éléments là qui sont vraiment très abîmés. Bon, il a été vandalisé, les carreaux cassés. Et puis, ben, toute la partie en fait, métallique n'est pas entretenue, donc nécessairement, ça rouille.
Délaissé pendant près de 40 ans, le site va être restauré à l'identique et aménagé pour y créer des espaces de bureaux partagés et un restaurant.
Alors, Florence Haché-Leroy, je suis historienne et je préside le CILAC, qui est l'Association nationale du patrimoine industriel.
Qu'est-ce qu'apporte l'urbex à des historiens comme vous ?
Alors, les urbex, je dirais qu'ils ont un intérêt pour nous, c'est qu'ils attirent l'attention sur des lieux dont on n'a pas forcément connaissance, donc par le biais de leurs photos. La difficulté, c'est que généralement, ils ne renseignent pas le lieu dans lequel ils se sont promenés, donc il faut pour nous essayer d'en savoir un petit peu plus. Mais de fait, ils sensibilisent aussi l'opinion publique, ce qui pour nous, qui sommes ou historiens ou praticiens du patrimoine industriel, est très important, puisque tout seul, on ne peut pas sauver une usine. Il faut vraiment qu'autour, il y ait une prise de conscience à la fois de la qualité architecturale, de la valeur historique du lieu, de la valeur sociale, c'est-à-dire mettre en évidence qu'il y a des gens qui s'y intéressent et que des gens pour qui ce lieu a de l'importance dans l'histoire familiale ou dans l'histoire de la ville, du quartier. Et les urbex participent de cette prise de conscience et de cette mise en valeur en fait des bâtiments industriels.
L'urbex, il y a 15 ans, était très marginal. C'est devenu presque un phénomène de mode. Il y a un changement de façon de regarder le patrimoine industriel en général et les usines, les entrepôts, tous les lieux abandonnés.
Alors je pense que le regard sur les bâtiments industriels, oui, a beaucoup évolué en 30 ans, 40 ou 30 ans. Il y a une trentaine d'années, quand on voyait un bâtiment industriel abandonné, la première réaction des municipalités, c'était de le détruire parce que c'est un endroit pollué, parce qu'il est un endroit dangereux et parce qu'il ne projetait pas de réutilisation. Tout le travail qui a été fait par les services de l'État, notamment le premier bâtiment que l'on cite reconverti, ce sont les Archives nationales du monde du travail à Roubaix, qui est une ancienne filature qui aujourd'hui est un centre d'archives qui dépend du ministère de la Culture. Donc c'est une très belle reconversion qui a montré que l'on pouvait, à partir d'un bâtiment industriel, avoir un nouvel usage tout à fait pertinent, adapté. Ces exemples-là, ils ont fait beaucoup pour finalement se dire, les bâtiments industriels, on peut les garder, en faire autre chose. Et puis la problématique du développement durable, bien évidemment, puisqu'on réutilise, c'est-à-dire qu'on ne gaspille pas les matériaux, on réutilise les lieux et ce qu'on appelle la reconversion du patrimoine industriel entre pleinement dans cette problématique du développement durable.
Il y a des dizaines, des centaines de chaînes sur YouTube, sur Instagram qui se créent avec des choses qui sont plus ou moins de l'exploration, plus ou moins du défi, de la prise de risque, plus ou moins de l'histoire. Vous avez quel regard là-dessus en tant que spécialiste ?
Alors, très 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 prudente. En fait, ce qui me gêne beaucoup, c'est quand on magnifie ces visites d'usines en faisant des terrains de jeu, alors que ce sont des lieux dangereux. Il y a très régulièrement des accidents, notamment il y a eu une grande mode d'aller faire des parties de paintball dedans et des gens qui se blessent, parce que ce sont pas des lieux faits pour le loisir, pour courir, pour sauter. Ça m'inquiète beaucoup parce que c'est aussi un des facteurs qui peut pousser à détruire ces bâtiments. C'est-à-dire que s'il y a des accidents, il est évident que les propriétaires vont pousser à la destruction pour ne pas avoir de derrière, pas être poursuivis. Mais je crois que s'il y a un message à faire passer, c'est une usine, c'est pas un terrain de jeu. C'est un endroit où il y a énormément de pièges et où on peut se blesser vraiment très facilement.
Urbex, les aventuriers des sites abandonnés, c'était un reportage acrobatique d'Antoine Gignot avec Hélène Langlois, aussi à l'aise en prise de son qu'en escalade, réalisation Violaine Ballet avec l'assistance de Mao de Butler, mixage Antoine Viossa. Si vous avez encore besoin d'une dose d'adrénaline, retrouvez d'ores et déjà cette émission sur le site franceinter.fr.